VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique américaine. Deux jours après le séisme politique causé par la victoire de Donald Trump à la présidentielle du 8 novembre, le président Barack Obama doit recevoir incessamment à la Maison-Blanche le milliardaire républicain. Le chef de l'exécutif, qui n'a jamais caché ses divergences avec son successeur, est déterminé à faciliter une transition en douceur, bien que l'investiture de Donald Trump en tant que 45e président des États-Unis le 20 janvier prochain mettra fin à 8 années d'administration démocrate. Quels sont les défis auxquels Donald Trump va faire face dès son accession à la présidence ? Éric Manirakiza a posé la question à l'analyste politique et professeur de l'Université de Virginie, James Caesar.
Il aura plusieurs choses à faire tout de suite. Il a promis d'abord de commencer son fameux mur avec le Mexique. Il a dit qu'il allait expulser tout de suite les immigrants, au moins les immigrants criminels. Ça va peut-être arriver tout de suite. Puis il a parlé d'un plan pour une défaite de l'État islamique avec pas beaucoup de détails, mais il a promis quand même. Et puis il va dépenser beaucoup d'argent pour les infrastructures dans les 10 ans qui viennent. Donc, c'est une espèce de projet pour le commencement de son mandat.
Oui, mais dans les 100 premiers jours, qu'est-ce qu'il devrait faire, selon vous?
Il a dit qu'il a annulé tout de suite beaucoup de règlements que Obama a soutenus. Et puis, comme je disais, il dit qu'il va demander aux généraux de les forces militaires de lui donner un plan pour une défaite de l'État islamique. Ce ne sont pas nécessairement des choses sérieuses. C'est la rhétorique de la campagne. Et maintenant qu'il est élu, il doit décider les choses vraiment les plus importantes, ce qu'il peut faire tout de suite. Et vous savez, avec beaucoup de choses, ce ne sont pas que des propos. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir le soutien du Congrès. Donc, c'est un grand processus. Ça dépend de la question. Il y a des choses qui sont sous le contrôle du président, mais une grande partie qui sont sous le contrôle du Congrès. Par exemple, le mur. Il faut avoir une loi et il faut avoir des fonds pour construire le mur.
Il y a la question de la Russie, par exemple. Trump qui inspire beaucoup plus confiance à Poutine qu'à l'OTAN.
Ce qu'il va faire avec la Russie, ce qui n'est pas très cohérent, ça il faut dire. Il a parlé un peu favorablement en ce qui concerne Poutine. Mais hier soir, par exemple, il a modifié en disant que, bon, il va être juste avec tous les autres pays, mais il va défendre les intérêts des États-Unis. Je peux dire que sous ce plan-là, sur l'OTAN et la politique extérieure, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant est très flou. Et donc, ça va changer. Et il s'agit aussi de questions qui va être le secrétaire d'État. Cette personne-là va avoir beaucoup de marge de manœuvre. Et on verra après le choix de ce personnage-là. C'est un des choix les plus importants.
Trump, qui a promis beaucoup de choses pendant sa campagne, est-ce que vous pensez que maintenant qu'il sera dans la réalité du pouvoir, il pourra réaliser ce qu'il a promis?
Personne ne peut réaliser tout ce qu'il a promis, par exemple le président Obama. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est de choisir trois choses faisables tout de suite pour montrer qu'on peut agir. Démontrer qu'on est sérieux. Il n'est pas nécessaire d'accomplir tout ça, ce n'est que le baratin de la campagne. Mais il va choisir les priorités tout de suite. Ces priorités peuvent être les choses qu'il peut faire lui-même, et puis d'autres choses qu'il doit faire avec le soutien du Congrès, qui est maintenant, il faut dire, majoritairement républicain dans les deux chambres.
Il y a l'Obamacare qu'il a promis d'annuler. Est-ce que vous pensez qu'il pourra introduire une autre forme d'assurance maladie aux Américains immédiatement?
Ça fait partie d'une loi. Donc, il faut avoir le soutien du Congrès. Sauf que, au sein de cette loi, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises par le président Obama. Et Trump pourrait annuler ces décisions comme ça. Les décisions qui sont sous le contrôle du président. Peut-être qu'il va commencer tout de suite, quand il est élu, en disant que je vais annuler une telle ou telle réglementation, etc., etc., pour montrer qu'il n'accepte pas Obama. Mais pour faire tout un changement de l'Obamacare, il faut le faire avec la coopération du Congrès. C'est aussi vrai que les démocrates ont admis pendant la campagne, y compris Mme Clinton et son mari, qu'il y a de graves problèmes avec Obamacare. C'est déjà admis. Et donc, ça va donner une possibilité d'avoir du soutien de quelques démocrates.
Le professeur James Caesar, analyste politique et professeur à l'Université de Virginie. Réaction en Afrique ce jeudi à l'élection de Donald Trump au Zimbabwe. Le quotidien d'État zimbabwéen s'est réjoui de la victoire du milliardaire républicain dans un éditorial où il remercie le peuple américain de ne pas avoir élu la belliciste Hillary Clinton. Mais la réaction officielle du gouvernement zimbabwéen est plus mesurée. Le ministre de l'Information, Chris Mushoshwe, a rappelé dans le Herald que le Zimbabwe n'avait jamais été l'ennemi des États-Unis. Et il a jugé encourageant le ton modéré du premier discours de M. Trump après sa victoire. Le ministre zimbabwéen espère que le nouveau gouvernement américain va restaurer les relations historiques du Zimbabwe avec les États-Unis.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, au moins 2 personnes ont été blessées ce jeudi à Kinshasa dans de nouveaux affrontements entre policiers et étudiants qui protestaient contre la hausse de leurs frais universitaires, désormais fixés à $350 contre 250 l'année dernière. Les manifestants étaient des étudiants de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa qui ont érigé des barricades sur un grand boulevard. Des policiers qui avaient quadrillé le périmètre ont tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser et les étudiants ont riposté par des jets de pierre. Le calme est revenu après plus d'une heure d'affrontement. Et toujours en RDC, les massacres qui endeuillent depuis plus de 2 ans la région de Beni, dans l'est du pays, sont le fait d'une nébuleuse derrière laquelle se cachent des mains politiques congolaises au mobile obscur. Déclaration du maire de Beni lors d'un entretien avec l'AFP. Beni et ses environs dans le nord de la province du Nord Kivu sont le théâtre depuis octobre 2014 d'une succession de massacres de civils perpétrés essentiellement à l'arme blanche et en fait des centaines de morts, environ 700 selon l'ONU, jusqu'à 1300 selon le collectif d'ONG, de syndicats et de représentants des confessions religieuses. Gabon, le général Célestin Mbinga, patron des services d'immigration gabonais, la DGDI, a démissionné après une descente de plusieurs de ses agents dans les locaux d'un journal d'opposition à Libreville où ils avaient interpellé 14 personnes, relâchées par la suite. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur. Rappelons que le 4 novembre, des agents de la DGDI a fait une descente dans les locaux d'un journal d'opposition, Les Échos du Nord, particulièrement virulent de ses prises de position contre le pouvoir. Ils ont interpellé 13 personnes, notamment des journalistes et des membres du personnel administratif et technique. Et la rédactrice en chef adjointe, Raissa Oyaseko, avait été appréhendée le lendemain à son domicile. Le Kenya a débuté comme prévu hier le rapatriement de ses casques bleus déployés au Soudan du Sud au sein de la MINUS, la mission onusienne sur place. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Un premier groupe d'une centaine de soldats en provenance de Vo, dans le nord-ouest du pays, a atterri à l'aéroport international de Nairobi. Les autres soldats doivent être rapatriés dans les prochains jours. Le contingent kényan, l'un des plus importants de la MINUS, compte environ 1000 soldats sur les 13 500 casques bleus déployés dans le pays. Le rapatriement de ces casques bleus fait suite au limogeage du commandant kényan de la mission onusienne au Soudan du Sud. Il avait été démis de ses fonctions début novembre. Une enquête de l'ONU avait accablé les casques bleus pour leur inaction lors des violences de juillet à Djouba, ayant opposé les forces du président Salva Kiir à celles de l'ex-chef rebelle, alors vice-président du pays, Riek Machar.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma, embourbé dans une série de scandales de corruption, est confronté ce jeudi à une nouvelle motion de défiance au Parlement. Mais selon les experts, il devrait une fois de plus surmonter ce nouvel obstacle malgré la colère qui gronde au sein de son parti. Et pour terminer, l'Égypte, en quête de liquidité pour soutenir une économie chancelante, a obtenu un financement de 2 milliards de dollars d'un consortium de banques internationales dont le nom n'a pas été dévoilé. Cette annonce de la Banque centrale intervient à la veille d'une décision cruciale du Fonds monétaire international, le FMI, sur un prêt de 12 milliards de dollars demandé par le Caire pour remettre à flot une économie malmenée depuis la révolution de 2011 contre l'ex-président Hosni Moubarak. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.